9h42, ici à Paris, on passe au Journal des Sports. Avec vous, Salih Diouf. Ce matin, on commence ce journal avec du foot. La RDC conclut son stage à Orléans de fort belle manière.
Deux matchs, deux victoires pour les Léopards. Trois jours après un succès, 1-0 face au Mali, les joueurs de Sébastien Desabre ont battu Madagascar ce dimanche sur le score de 3-1. Et comme l'attaquant Samuel Essendé face aux Aigues, c'est au tour de Simon Banza, autre attaquant, de s'illustrer en marquant pour la première fois en équipe nationale. Et pas un, mais deux des trois buts congolais. Très heureux de cette illustrée, il pense déjà à la suite et notamment aux éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de septembre.
Ouais, on est content, on finit bien ce stage. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. Et voilà, on est bien, le Congo va bien. On dira merci aussi aux supporters, ils ont été présents, ils nous ont supportés sur les deux matchs, donc que du bonheur. On restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore et on est prêt pour le match au Martyr et en dehors.
Oui, car la RDC aura un gros match à jouer contre le Sénégal à domicile et c'est un ticket pour la Coupe du Monde 2026 qui est en jeu.
D'autres matchs amicaux à suivre aujourd'hui.
Le Maroc, pays hôte de la prochaine CAN cet hiver, accueille le Bénin à Fès. Le Cameroun se déplace au Maroc, plus précisément à Marrakech. Mais ils n'affronteront pas les Lions d'Atlas. La Guinée équatoriale sera au programme pour les Lions indomptables. Coup d'envoi des deux rencontres 20h temps universel. Et sachez que la rencontre entre la Tunisie et la Centrafrique pourrait ne pas se disputer car les joueurs centrafricains menacent de faire grève à cause de primes non payées.
Et du basket à présent avec de la NBA.
Oui, le match 2 de la finale des playoffs s'est joué cette nuit et c'est une défaite pour les Indiana Pacers de Pascal Siakam qui affrontait Oklahoma City. Le score 123-107, le Camerounais et ses coéquipiers avaient remporté le premier match. Le match 3 aura lieu jeudi prochain.
On termine ce journal des sports avec du cyclisme.
La 4e étape du Tour du Cameroun qui s'est courue ce dimanche entre Yaoundé et Bafia sur une distance de 122 km a été remporté par l'Algérien Mohamed Najib Hassal, suivi de l'Allemand Lucas Carstensen. Au classement général, le maillot jaune est toujours sur les épaules du Camerounais Boris Michel Tientje. Les écarts sont encore serrés. Le cinquième du général, le Béninois Glorad Seizonou, est ainsi à 58 secondes. Le champion national du contre-la-montre porte aussi le maillot blanc de meilleur jeune depuis la deuxième étape et il ne compte pas s'arrêter là.
C'est une fierté pour moi de porter ce maillot. C'est pas du tout facile de garder ce maillot jusqu'à cette 4e étape. Mais mon objectif, c'est de garder ce maillot jusqu'à la fin du tour. Et j'espère que ça sera possible grâce à l'aide de mon équipe. Cette étape, c'est une étape qui grimpe un peu tout dans les 10 derniers kilomètres. L'arrivée, même si c'était sur un faux plat montant, grâce à notre performance, grâce à notre niveau actuel du Bénin, je crois qu'on peut faire plus que ça. Si le maillot jaune n'est pas très loin de nous, pourquoi ne pas essayer? Ça m'a 58 secondes lorsque les attaques vont vouloir se placer. On va essayer de très bien se positionner dans les attaques, dans les échappées. Et pourquoi pas viser le maillot jaune également.
Et ce lundi, 5e étape, Tonga, Bangant, Tonga.
Merci, Salih Diouf. C'était le journal des sports sur RFI. 9h45 à Paris. Et à Nice, dans le sud de la France, la ville qui accueille cette semaine le sommet des Nations Unies sur l'océan. Et dans ce contexte, nous partons dès aujourd'hui dresser un état des lieux autour du continent africain. Premier épisode tout de suite de notre série de reportages dédiés à la pollution plastique, véritable fléau des océans. Et les eaux africaines ne sont pas épargnées. Chaque année, des millions de tonnes d'ordures se déversent dans les océans bordant le continent, menaçant les écosystèmes et les populations côtières qui en dépendent. Mais contrairement au Pacifique, les données aujourd'hui disponibles sur la pollution plastique autour de l'Afrique demeurent très limitées, ce qui freine la compréhension de ce phénomène. Or, plusieurs études scientifiques ont été lancées pour remédier à ces lacunes. Sarah Teto s'est rendue aux Seychelles pour RFI Reportage.
Aussi idylliques soient-elles, les plages des Seychelles ne sont pas épargnées par les détritus qui viennent s'y échouer à chaque nouvelle marée, explique ce plagiste.
On retrouve des petits bouts de plastique, des sachets. On nettoie deux fois par jour. Même les touristes ramassent les saletés et nous les apportent pour qu'on les mette à la poubelle.
Cette pollution, visible à différents degrés sur les côtes africaines, ainsi que ses effets, reste cependant assez mal connue à l'échelle du continent. Le scientifique Yashwin Niol, spécialiste de la chimie des océans, est le co-auteur du livre « The African Marine Litter Outlook ».
Pour comprendre la pollution plastique marine, il est essentiel de commencer par identifier les sources ainsi que les voies de dispersion des déchets plastiques. En fonction des courants marins et de la topographie côtière, ces déchets s'accumulent dans certaines zones spécifiques le long des côtes africaines.
Les chercheurs ont défini deux zones qui concentreraient des milliers de kilomètres carrés de ce qu'ils appellent des soupes de microplastiques. L'une dans l'océan Atlantique au sud de l'Afrique du Sud, l'autre dans l'océan Indien au sud de Madagascar. Néanmoins, rappelle Yashvin Nihol,
il est difficile de se prononcer sur les sites exacts où s'accumule le plastique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de données sur l'étude des courants autour du continent africain.
Et c'est particulièrement le cas pour la façade est de l'Afrique, comme l'explique Christophe Maes, océanographe et physicien à l'IRD.
L'océan Indien a un gros retard par rapport aux autres océans, tout simplement parce que c'est pas forcément le lieu de passage des principaux rails de navigation océanique.
Pour y remédier, un programme de collecte de données a lieu en ce moment même dans le sud-ouest de l'océan Indien, grâce au largage, à partir d'un navire de recherche, de bouées dérivantes qui émettent un signal GPS.
Ok, Etienne, on est en position à l'arrière, la bouée est activée, on va la larguer.
Ok, bien reçu, on arrive sur zone là.
Ok, parfait. 3, 2, 1, largage.
Ok, bouée dérivante larguée, je prends la position.
Quand on lâche les bouées, ça nous permet d'avoir une description, au moins à l'échelle de la bouée, des principaux mouvements de l'océan. Et puis à partir des modèles, d'essayer de mieux comprendre la dynamique que peuvent subir les plastiques dans l'océan Indien. Un second intérêt en fait du largage des bouées et d'étude de leur dispersion, c'est qu'on peut remonter à l'origine de ces plastiques qui viennent polluer en fait l'ensemble de la région.
Si la majorité des plastiques en mer provient de la terre ferme, les chercheurs estiment toutefois que l'abandon et la perte d'équipements de pêche dans les océans seraient responsables jusqu'à 30% de la diminution des ressources halieutiques. Sarah Détot, de Retour des Seychelles, RFI.
Et le deuxième épisode de cette série sera à écouter demain sur RFI. En Centrafrique, c'est une manière de pallier au manque de poulet et à l'augmentation des prix sur les marchés. De plus en plus d'éleveurs se tournent vers l'élevage de canards. C'est notre dossier Afrique Économie ce matin avec Rolf Steff Domielleux et une jeune entreprise baptisée Rofpal pour Rosia, la fermière produits alimentaires, entreprise qui a bien compris que le canard avait des arguments à faire valoir en ces temps de crise. Reportage.
Dans cette concession d'environ 1 hectare, les canards sont élevés en liberté dans des cabanes en bois. L'endroit est bien aménagé et clôturé. Née dans une famille d'éleveurs et d'agriculteurs, Natacha Rossia Epilaki s'est lancée dans l'élevage des canards il y a 3 ans. Ce matin, elle tient une vieille boîte de conserve en main et lance à la volée des graines de maïs au canetan.
Les canards sont rares sur le marché en République centrafricaine. Pendant les fêtes, les gens ne vendaient que des poulets de chair. Ce sont nos voisins congolais, de Zongo qui ravitaillent le marché de Bangui. Et ils repartent avec l'argent. C'est ce qui m'a motivé à faire l'élevage des canards.
Dans sa combinaison bleue, Jesse Mabada, l'un des employés de l'entreprise Rofpal, prépare son pouce-pouce pour aller à la conquête des clients potentiels.
À 5h30 ici.
À 5h30, on doit être là pour nous occuper des canards. Il y a beaucoup de clients à Bangui. J'arrive toujours avec une vingtaine de canards, mais le soir, je rentre avec mon pouce-pouce vide.
Certains canards sont vendus aux restaurateurs, mais la plupart sont commercialisés sur les marchés de la capitale. Natacha possède actuellement 80 canards et une centaine de canetans.
Au début, j'ai démarré avec 3 femelles et un mâle. Mais le prix minimum est de 5 000. Annuellement, je peux gagner 500 000.
Un revenu qui dépasse le salaire minimum de 29 000 francs CFA par mois. Et si le prix des canards est plus élevé d'environ 1 500 francs CFA qu'un poulet traditionnel, les canards cependant ont plus de chair, apprécient les consommateurs comme Gaëtan.
Sur les marchés, les canards ont remplacé les poulets de chair. Parce que les éleveurs de poulets ont du mal à s'approvisionner en poussins. Ces derniers jours, je n'achète que des canards pour mon restaurant.
Aujourd'hui, Natacha ambitionne de vendre ses canards sur tous les marchés du pays et ceux de la sous-région. Mais dans ce travail, les difficultés ne manquent pas.
Les tourteaux de soja et coton sont difficiles à trouver. Les produits vétérinaires sont chers parce qu'ils sont importés de l'étranger. Je n'ai pas de couveuse ni d'électricité photovoltaïque.
Avec son projet d'élevage de canards, l'entreprise Rofpal a remporté en avril dernier le prix du championnat des startups au salon de l'entrepreneuriat féminin à Bangui. Malgré les nombreux défis, elle compte créer cette année une unité de vente d'œufs de canard en palette, une première en République centrafricaine. Rolf Steff Domielleux, Bangui, RFI.
Bangui, où il est actuellement 8h52, tout de suite, musique. Notre matinée qui se termine en musique comme chaque jour. Et ce matin, on écoute ensemble Mysticali. Le groupe vient de sortir son troisième album. Ça s'appelle Résilience et c'est notre choix musical ce matin. Bonjour Carmen Lunsman.
Bonjour Andréane.
Mysticali, c'est deux voix de femmes, un duo donc captivant qui porte bien son nom. Vous pouvez nous en dire plus, Carmen?
Alors, elles sont issues de la diaspora afro-caribéenne. Adeline Oroquiom, d'origine martiniquaise, et Marilou Fauconnet, aux racines congolaises, se sont rencontrées dans une guinguette parisienne il y a près de 20 ans. Basées aujourd'hui à Besançon, elles s'ancrent musicalement dans le reggae.
Every day I meet so much happiness on my way. Sweetest feeling, I wanna taste that.
Le titre Face to Face que l'on entend ici, où le duo de Mysticali se trouve face à face avec l'artiste sénégalais Lidiop. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations dans ce disque de Mysticali?
Il y a surtout l'ouverture de l'album, Andréane, où ces deux chanteuses charismatiques frottent leur voix à celle du rappeur afro-américain Napoléon Maddox. You don't deserve it if you don't fight for it. No stress to die. Let y'all light it. You ever feel lost? Let y'all guide it.
Let's Fight, titre qu'on écoute ici et qui résonne, Carmen, comme un vrai appel au combat.
Oui, mais la résilience est la réponse, chantent ces deux combattantes qui sont par ailleurs profs de chant et éducatrices spécialisées le jour et compositrices et parolières la nuit, où elles écrivent leurs chansons tantôt revendicatives, tantôt introspectives, mais avec la même intensité. I don't know if I'm right, waiting in the fog. Lord, show me the way. My mind is in trouble between good and evil. I need to get away. Life is a challenge leading us to fight. Please give me a sign. I wanna feel peace in me. I need your light to lead.
Peace and love, paix et amour, c'est tout ce qu'il me faut. Message bien reçu dans ce titre All I Need de Mysticali. Quelles sont les autres causes qui tiennent à cœur à ces deux chanteuses, Carmen?
Elles sont très conscientes du monde qui les entoure. Ces alchimistes de la musique revisitent par exemple la cumbia, une danse apportée par des esclaves au XVIIe siècle en Colombie, pour évoquer des enjeux de la société actuelle.
Ce titre, Gone, parle du parcours migratoire sous le prisme de l'Afrique, cette traversée de l'Afrique vers l'Europe, mais on peut universaliser ce propos, je pense, à toute forme de migration. Je connais beaucoup de frères et sœurs qui sont arrivés ici en Europe avec un rêve, un espoir, et qui se retrouvent avec une forme de désillusion, une ambivalence entre un ailleurs qui n'est pas forcément comme on l'avait imaginé, et une terre-mère qui s'éloigne, parce qu'une fois qu'on est ici, c'est compliqué de rentrer au pays, d'expliquer à la famille que finalement ici, c'est pas si rose, etc. Et donc, c'est aussi une forme de résilience.
Et c'est levé, ce titre en créole avec son rythme tribal et ses percussions traditionnelles martiniquaises du bélé qui incarne probablement le mieux l'esprit de l'album.
Garder la foi, garder la force, ne pas laisser la peine triompher.
Mystique. Kali et leur troisième album Résilience sous le label ZN Prod. Je précise que le groupe sera en concert le 12 juin prochain à Besançon en France. Merci Carmen Lunsman.
Merci Andréane.
Allez, encore un peu de Mysticali pour se quitter. Merci d'avoir suivi RFI Matin. Christophe Pernet était aux manettes aujourd'hui. Merci à lui et passez une belle journée sur la radio du monde. Bientôt 10h sur RFI, l'heure d'un nouveau journal. Et tout de suite, je vous laisse avec Juan Gomez. Bonjour Juan.
Bonjour Andréane Mélard, bonjour à toutes et à tous.
À suivre, rappel sur l'actualité à 10h10, au programme le travel ban de Donald Trump.
Oui, depuis 4h temps universel, les ressortissants de 12 pays, dont 7 africains, sont interdits d'entrer aux États-Unis. Donald Trump justifie cette décision par un impératif sécuritaire. Il dit vouloir protéger les États-Unis de terroristes étrangers. Alors que vous inspire cette mesure? Quelle doit être la réaction des pays concernés? Vous avez la parole, appelez-nous 33 9 693 693 70. Andréane Mélard, bonne journée.
Bonne journée,
et
à demain.
Demain, évidemment. Reste avec nous dans moins de 2 minutes, le journal.
Priorité santé.
Raphaël Constant vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
comprendre les varices et l'insuffisance veineuse.
Demain,
les maladies de la prostate, toutes vos questions à un spécialiste.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédigez une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Quand tous les puissants du monde se retrouvent à Nice à la conférence sur l'océan, nous allons feuilleter le dictionnaire culturel de la mer et de la marine. Pour décliner tous les noms de bateaux, plonger dans les abysses, tutoyer les divinités nautiques et se rêver moussaillon.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.